Africa. Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa Radio.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre émission, le journal des auditeurs, l'émission dans laquelle vous avez la parole pour commenter et débattre de l'actualité sur Africa Radio. Aujourd'hui, mercredi, dans le JDA, nous parlons de cet accord de cessez-le-feu entre djihadistes de la Katiba Massina et des chasseurs d'oiseaux au Mali. Alors que certains pays s'interrogent sur l'opportunité de dialoguer avec les terroristes au Mali, c'est déjà une réalité. Dans le cercle de Niono, un accord sous l'égide du Haut Conseil islamique a été trouvé entre les milices armées d'Ozo, chasseurs traditionnels, et les terroristes de la Katiba Massina d'Amadou Koufa. Alors, objectif, hein, mettre un terme aux affrontements. Qu'en pensez-vous? Cet accord peut-il être une bonne solution pour lutter contre l'insécurité? Pour participer, appelez-nous dès maintenant au 33 1 55 07 58 00. 33 1 55 07 58 00. Vous pouvez également nous écrire sur WhatsApp, notamment si vous êtes du côté du Mali. Le numéro WhatsApp du studio d'Africa Radio, c'est le 33 7 66 19 77 69. 33 7 66 19 77 69. Mais d'abord, nous ouvrons cette émission avec vos messages laissés sur le répondeur d'Africa Radio.
Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
Oui, bonjour Africa Radio. Je voudrais intervenir au sujet d'hier. Qu'il y a un monsieur Mamadou qui a parlé des Nations Unies pour intervenir au Congo Brazzaville. On en a vu, il y en a eu beaucoup de pays qui ont été envahis par l'ONU. Que voilà, que les populations n'ont pas fait de grandes choses. On prend l'exemple sur Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, et puis en plus au Libye, de Kadhafi. L'ONU est partie, là, ils ont détruit là-bas, sans pourtant que tous les pays soient d'accord avec eux. Bon, c'était mon coup de gueule. Je vous dis de passer une excellente journée. Au revoir.
Bonjour Stéphanie. Bonjour Terrestre Radio. Bonjour l'Afrique. Là, je viens d'écouter, j'ai écouté Guy Bispafakolela, qui est candidat aussi aux élections présidentielles du 21 mars prochain au Congo. Bon, en fait, comme je l'ai toujours dit, ça, c'est des gens qui viennent juste pour parler et puis se faire passer pour des opposants. Moi, je suis désolé. Hein. Franchement, les Congolais qui sont pour Guy Bispafakolela, ils vont m'en vouloir, mais je m'en fous. Mais la vérité est que Guy Bispafakolela, c'est vraiment un faux opposant. En fait, même quand ils ont entendu de parler à son interview sur RFI, il n'y a même pas un programme pour les Congolais. Donc en fait, ils ont pour moi, le projet qu'ils ont, le programme qu'ils ont, c'est de sortir Moukoko et Okoye Fensa en prison. Mais ça, ce n'est pas ce que les Congolais attendent. Ça, c'est une affaire qu'ils vont régler politiquement. Mais on veut qu'ils amènent aussi des projets de société. Donc et eux tous, ils sont pareils. Et s'ils viennent au pouvoir aujourd'hui, ils feront pareil.
Allô, bonjour Africa Radio, bonjour à tous les auditeurs, c'est M. Touré. J'appelais pour magnifier les retrouvailles de l'opposition sénégalaise, notamment l'acte que M. Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar, et Ousmane Sonko ont posé hier, histoire de mobiliser toute l'opposition autour d'un front pour faire face à Macky Sall, qui a refusé depuis 2 ans d'organiser les élections locales. Et qui, dans sa lancée, si on l'avait laissé faire, n'eût été la mobilisation de la jeunesse sénégalaise, allait aussi continuer à ne pas organiser les élections législatives qui se tiendront en 2022. Donc voilà, la seule force de l'opposition sénégalaise aujourd'hui, c'est de se retrouver et de former un bloc et imposer à Macky Sall de respecter le calendrier républicain afin qu'on puisse faire les élections locales en 2021 et ensuite les élections législatives en 2022. Voilà, et surtout que la jeunesse sénégalaise reste mobilisée pour suivre la lutte parce que tant qu'on n'arrive pas en 2024...
Bonjour Radio Africa, bonjour Africa Radio. J'appelle aujourd'hui concernant le Mali. Le moment où la jeunesse est en train de se déchirer est un moment avec tous les problèmes du Mali. Les anciens politiciens, ils sont en train de préparer pour partager les gâteaux de la transition. Vous voyez les Maliens, les anciens politiciens, les anciens ministres, ils sont en train de tout faire pour qu'un remaniement ministériel soit fait au Mali, pour que les anciens ils puissent continuer à partager les gâteaux entre eux. Leurs enfants vont continuer à étudier à l'extérieur, eux-mêmes vont entrer, continuer à se soigner à l'extérieur. Leurs femmes, ils vont faire les courses tous les jours au Dubaï et ailleurs. Nous, les pauvres, c'est nous qui vont ramasser tout le temps les pots cassés. Il est temps que la jeunesse se réveille, qu'on sache de se déchirer. Pensons à l'avenir de nos enfants, nos arrière-enfants. Sinon, vraiment, Mali, on va continuer comme ça.
Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
Merci à tous pour vos messages. Une petite précision concernant le premier message et l'ONU. Ce n'est pas l'ONU qui est intervenue en Libye, mais l'OTAN, l'organisation transatlantique. Voilà. Aujourd'hui, dans le JDA, accord de cessez-le-feu entre Dozo et djihadistes au Mali. Alors que certains pays s'interrogent sur l'opportunité de dialoguer avec les terroristes au Mali. C'est une réalité, mais ce n'est pas vraiment l'État malien qui négocie, mais plutôt les milices Dozo, notamment dans le cercle de Niono. Un accord sous l'égide d'ailleurs du Haut Conseil islamique a été trouvé entre les chasseurs traditionnels et les terroristes de la Katiba Massina d'Amadou Koufa. Ces deux groupes se combattent régulièrement. Objectif donc mettre un terme aux affrontements. Cet accord de cessez-le-feu fragile est prévu pour durer un mois et pour prolonger l'accord, la Katiba Massina demande à l'État malien de se retirer, de retirer plutôt les militaires aux environs de Farabougou, ce village occupé depuis plusieurs mois par des djihadistes. Alors qu'en pensez-vous, l'État malien doit-il céder et retirer les militaires de cette région? Que pensez-vous de cet accord? Est-ce un aveu d'échec pour l'État malien ou au contraire peut-il permettre de rétablir la sécurité dans cette région? 33-1-55-07-58-00 33-1-55-07-58-00. On va demander aux Anna tout de suite ce qu'il en pense depuis le Tchad. Bonjour.
Bonjour Stéphanie, bonjour à tous les amis de JDA.
Bonjour Ozana, alors vous avez sûrement suivi cet accord de cessez-le-feu. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce une bonne chose?
Moi, je crois que l'Afrique n'a pas besoin de perdre ses fils. Donc, du moment où les gens s'arrangent à trouver un accord de paix, je suis très d'accord. Donc, honnêtement, moi, à mon niveau, je crois que c'est une bonne nouvelle pour tout le continent africain. Parce que quand les gens se mettent à se battre, je crois que cela handicape même le développement de notre continent. Donc,
Alors qu'on soit clair, je vais vous donner un peu les détails de cet accord, Ozana, vous allez peut-être avoir un autre point de vue dessus. Alors du coup, suite à cet accord, qui n'est pas un accord de paix, mais un accord de cessez-le-feu, ce qui est différent, les habitants du cercle de Niono peuvent désormais circuler librement, aller au champ et vendre leur bétail. En échange, les djihadistes pourront aller prêcher dans les villages. Voilà, et pour prolonger cet accord, les djihadistes demandent à l'armée malienne de quitter le village de Farabougou, sans quoi le cessez-le-feu prendra fin. Pensez-vous que l'État malien doit répondre à ces exigences?
Même si Stéphanie, c'est un cessez-le-feu, je crois que c'est déjà un pas de plus. Parce que comme vous venez de le dire, c'est là pour le marquer normalement à ces deux.
La ligne se dégrade, Ozana, mais on a bien compris que pour vous, c'était plutôt une bonne nouvelle, cet accord de cessez-le-feu. Voilà, l'important, c'est que les combats soient terminés. 01-55-07-58-00, venez nous dire ce que vous en pensez. Un message de Christian, il dit « C'est une belle initiative pour la paix et la sécurité, que rien ne se cache cependant derrière cette déclaration pour enfin satisfaire leurs besoins. Les autorités... Excusez-moi. Les autorités maliennes doivent être vigilantes car les djihadistes sont des serpents à deux têtes, écrit Christian. » Je ne fais pas confiance à un djihadiste, tenez-vous bien. Diaby, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour Diaby, bienvenue dans le journal des auditeurs.
Merci beaucoup de me donner l'antenne. Mais je pense que vraiment c'est un grand piège pour le Mali. Parce que je pensais que ça c'est pour piéger les sacerdotes qui sont là. Je demande au sacerdoce Dogo, parce que nous, notre village, le village de Kaï, région de Kaï, on demande à tout le monde, tous les sacerdotes des armées, on fait tout pour que les sacelles soient armées aux dents.
Parce que j'ai précisé, Diaby, parce que vous avez dit au standard, l'important c'est que les deux autres gardent les armes. Je précise que cet accord a été fait, il n'y a pas de désarmement, hein, que chacun reste armé. Hein.
Exact. Tu sais, voilà, Stéphanie, je sais, c'est un piège qu'ils sont en train de faire le gouvernement malien. Parce que je sais que c'est la demande de la France et la demande de l'Union européenne pour que les sacerdotes de Gaulle soient désarmés. Parce que ça, la seule chose que le groupe armé, il peut se réquisir au si les Dozo seraient armés, vous avez vu, depuis que les Dozo sont armés, on n'entend plus les tueries au Mali.
Excusez-moi, Diaby, ils sont régulièrement quand même accusés hein, d'exactions contre la communauté Peul. Hein. On se rappelle aussi le massacre de Gossagou.
Exact, Stéphanie, oui, mais ça, c'est une erreur qui était faite. Bon, je m'incline de... Mais je sais que c'est une erreur qui était faite.
Hein.
Oui, ça, on le savait. Mais depuis que c'était passé, on n'a jamais entendu d'autre chose. Parce qu'on sait que, je demande aux Dozo, s'il sera désarmé le Dozo, tout le village sera arrasé par le groupe armé. Dozo, vous savez, il sera jamais désarmé. Aucun Malien...
On entend bien. C'est pas une question de désarmement de Dozo, Diaby. Moi, votre regard, par exemple, sur l'exigence de la Katiba Massina, qui demande à ce que les militaires maliens leur laissent le champ libre, finalement, à Farabougou. Pensez-vous que l'État malien doit répondre positivement à cette exigence?
Mais vous savez, Stéphanie, on n'a pas d'armée. Si on avait une armée, comment un groupe armé qui vient dans un village qui terrorise les populations, Stéphanie? Vous croyez qu'aujourd'hui on a l'armée au Malien? On n'a pas d'armée. Si on avait une armée, c'est ces bandits-là qui sont là, qui terrorisent les populations, qui n'arrivent même pas à aller dans les champs. Stéphanie, vous croyez que ça c'est normal? Vous trouvez que les communautés internationales, ils trouvent que c'est normal? Les paysans qui ne demandent rien aux Maliens, qui ne demandent rien à nous qui sommes des Maliens qui sont en étranger, ils ne demandent rien. D'aller dans leurs champs, d'aller cultiver dans leurs champs, ils n'arrivent même pas à cultiver dans leurs champs, ils arrivent à récolter, voilà les récoltes.
Mmh. Ils ont cultivé récoltes leurs récoltes. Ils sont régulièrement incendiés d'ailleurs par les djihadistes pour faire fuir.
Exactement. Mais vous trouvez ça c'est normal? Mais l'armée malienne, on n'a pas d'armée aujourd'hui. On est en train de faire l'armée construction, on n'a pas encore d'armée. Si on a une armée, ces groupes armés-là, ils vont quitter au Mali.
Vous êtes plutôt méfiant, si je vous entends bien, mon cher Diaby. En même temps, puisque vous parliez des paysans, hein, si cet accord, hein, si j'ai bien compris votre réflexion aussi, hein, peut permettre à ceux-là hein, de travailler, d'aller au champ. Pourquoi pas 01 55 07 58 00. Dans un instant, on écoute Tierno. La Marane hein, dit cet accord de cessez-le-feu doit être accompagné afin de déboucher sur une paix durable et définitive. Ils sont tous africains ou maliens. Il faut encourager le vivre ensemble tout en combattant l'injustice sous toutes ses formes. Hein. Je le rappelle, ce n'est pas un accord entre l'État malien et les djihadistes, mais entre les chasseurs traditionnels d'Ozo et les djihadistes. Est-ce que finalement, l'État malien n'est pas out dans cette affaire, Tierno, depuis Conakry?
Bonjour, aux auditeurs de JDA, très heureux de vous retrouver.
Alors, Tierno, je suis désolé, ça va pas le faire. Le son est pas du tout de bonne qualité. Ils avaient beaucoup de bruit derrière vous. On va peut-être essayer de vous rappeler. Hein. Je m'en excuse. Il faudrait essayer de vous isoler un peu, Tierno. Sinon, ça va être compliqué. Amadou de Grenoble, bonjour.
Bonjour, Stéphanie. Bonjour, Africa Radio. Moi, j'interviens, c'est mon point de vue. Bon, je ne sais rien. Je sais qu'une chose, que l'islam, s'il y a c'est une religion qui a le pouvoir religieux, c'est à la communauté religieuse de la foi qui doit s'en occuper. Mmh. On doit pas mélanger la politique, parce que l'État, il a le pouvoir de la sécurité des Maliens, de son territoire. Mais aucune religion ne doit pas imposer son point de vue sur l'État.
Mais d'ailleurs, hein, parmi les revendications dans cet accord de cessez-le-feu, les djihadistes hein, voulaient que les femmes hein, portent le hijab hein, dans ce cercle de Nyono. Les caddis, hein, d'ailleurs, les caddis qui sont des juges islamiques, pourront rendre des jugements à la demande de la population.
Oui, mais attends, c'est sur ce côté-là. Si on dit qu'adorer Dieu, on adore Dieu, est-ce qu'on prend un élan d'amour? Mais Dieu ne nous oblige pas.
Oh, vous savez, Amadou, vous m'excuserez, mais Amadou, Dieu n'a pas grand chose à faire là-dedans, si vous permettez.
La politique. Bon. Mais c'est la politique, s'il veut la paix, mais ils n'ont qu'à traiter la paix entre eux. Mm. Mais l'État, il a le droit, le pouvoir public, et ce qu'on pense, c'est le peuple qui a le pouvoir. Donc l'État, il est là pour garantir la sécurité des peuples.
Et on parle même parfois de violence légitime de l'État, mon cher Amadou. En est-on encore là? Au Mali, est-ce que l'État malien détient toujours le monopole de la violence? Rien n'est moins sûr. Hassan, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Moi, je voulais vraiment...
Bonjour Hassan.
Au fait,
Alors, je posais la question, est-ce que l'État malien, finalement, est out dans cette question, en tout cas en dehors
Bien sûr, l'État, là, où est le rôle de l'État alors? Si l'armée se retire de son territoire, où est le rôle de l'armée? C'est grave, c'est inexplicable ça, c'est inexplicable.
Est-ce que ça, si l'armée répondait, si l'État malien répondait favorablement à cette requête de la Katiba Massina, est-ce que ça pourrait créer un précédent dangereux, Hassan?
Moi je crois. Si l'armée se retire et lui laisse le champ libre à ces gens-là, à ces bandits armés-là. Moi, je pense pas. Je crois que les Occidentaux qui sont là-bas, ça sert à rien. Et vous voyez la transition malienne actuellement, hein? Les militaires là qui sont au pouvoir, et d'aller au front se battre, là ils sont là à partager le pouvoir là-bas. Vraiment, c'est je comprends plus rien, quoi. S'ils se retirent, ils cèdent à la pression de ces gens-là, ben c'est fini.
Un analyste disait ce matin que finalement, hein, malheureusement, le rapport de force ne penche pas, hein, pour l'État malien.
L'ONU est là-bas, l'armée française, ils sont sur place. Ça sert à quoi? Leur présence, qu'est-ce que ça sert à quoi? Au début, c'était vers le nord du Mali. Et maintenant, c'est vers le sud, partout. Il y a l'insécurité, ils sont là-bas. Rien. On n'en parle plus.
Donc cet accord entre djihadistes et Dozo est plutôt bien? Ça fait un semblant de paix?
Les Dozo, ça date pas d'aujourd'hui. Avant, les Dozo, ils étaient considérés comme des militaires. C'était eux qui protégeaient les villages, tout ça, contre les ennemis, tout ça. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est des chasseurs. Bon, en même temps, ils protègent leurs villages, tout ça. Mais les djihadistes, tout ce qui est les bandits, là, c'est nouveau. Ils parlent de religion. La 99% de la population malienne, elle est musulmane. Mais nous, on connaît pas ces gens de conflit, ces gens qui se droguent, qui tuent les gens, les femmes, tout le monde. C'est pas possible, ça. Ah, et les Dozo, ils sont dans les pleins droits de protéger les villages, tout ça. Mais ça n'a rien à voir avec l'armée aussi. S'ils demandent à ce que l'armée quitte les zones, c'est pas possible. C'est pour leur donner plus d'opportunités à détruire le pays encore davantage. Il faut pas qu'on cède à ce genre de pression, alors.
Merci Hassan, hein, qui dit qu'il ne faut pas céder à cette exigence, hein, de retrait de l'armée, hein, de ce village, hein, de Farah Bougou. Merci beaucoup Hassan, excellente journée à vous. Joe, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie.
Bonjour Joe. Alors, vous dites que ce n'est pas un bon accord.
Hein. Non, pas du tout. Enfin, si une milice arrive à signer un accord avec un groupe terroriste aux dépens de l'État, ça prouve à suffisance que l'État est complètement absent. Et là, c'est un pas de plus vers la balkanisation du Mali. C'est dommage à dire, mais c'est un pas de plus. Donc, à un moment, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est l'État qui a le monopole de la violence. C'est pas un groupe hétéroclite qui sort de nulle part et qui vient imposer sa loi. Là, le problème avec tous ces accords, c'est que chacun vient avec un agenda caché. On ne sait pas ce qu'ils ont derrière. Chacun vient avec son agenda. Les djihadistes prétendent qu'ils viennent prêcher, mais on prêche pas avec des armes. Ils viennent avec les armes, ils mettent la pression à la population. C'est une forme de pression.
Et d'ailleurs aussi, parmi leurs exigences, ils voulaient aussi prélever la zakat, hein, qui est l'impôt, hein, musulman, oui, si on peut dire ça comme ça.
Là, on revient au Moyen-Âge. Je suis désolé, madame. Ça, c'est un retour au Moyen-Âge. Et puis, ils demandent, dans leur clause, ils demandent à ce que l'État se retire. Mais madame, mais on est où, là? Il y a même, et ça, l'ONU ne réagit même pas. Il y a un problème. Il y a deux poids, deux mesures dans ce monde. Quand c'est en Afrique, il n'y a pas de problème. On fait ce qu'on veut. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Mais quand c'est dans les autres pays, ça crie partout. Il y a un problème. Il faut que l'État malien, il faut que l'Union africaine prenne cette histoire-là en main.
On imagine, Joe, quand même, parce qu'on va écouter Aboubakari tout à l'heure qui pense que l'État malien n'est pas au courant. L'État malien est parfaitement au courant de ce type d'accord. On imagine aussi qu'ils sont responsables. Puisque vous parlez de l'ONU, mon cher Joe, on peut imaginer que l'ONU n'intervient pas ou ne fait pas de déclaration en laissant la souveraineté à l'État malien.
Oui, mais le problème avec l'ONU, c'est ça. C'est un peu... à géométrie variable quand ils parlent de souveraineté. Hein. Parce que quand il s'agit d'autres pays, ils ne se prennent pas la tête, ils prennent des décisions. Je prends l'exemple de la Centrafrique. Souvent, ils prennent des décisions unilatérales comme ça. Mais c'est qu'il y a un problème. Retirer la force légale et pour instaurer je ne sais pas quoi. Enfin, et en plus, dans leurs exigences, ils doivent prélever des impôts.
Ça a été rejeté finalement, la ZAC-4, mais effectivement on peut s'interroger, hein, d'autant que selon plusieurs analystes, hein, l'une des causes, hein, de la crise multidimensionnelle au Mali, hein, c'est justement l'absence de l'État. Merci beaucoup Joe de votre intervention. 01 55 07 58 00. Aboubakari, bonjour.
Oui, bonjour Madame Stéphanie, bonjour cher ami de GDA.
Bonjour Aboubakari. Donc je vous le disais, hein, je pense que l'État malien est parfaitement au courant de cet accord.
Non, c'est qu'on s'est mal compris.
Ah bon,
non, c'est parce que, voilà. Et qu'est-ce qu'il voulait dire pour revenir, bon, pour bondir déjà, et pour entrer dans le vif du sujet, moi je suis un peu perdu même. Et quand j'écoute les auditeurs, les uns les autres, je suis un peu perdu. Il y a l'autre qui demande que l'ONU vient inviter, l'ONU vient intervenir, l'Union africaine vient intervenir, il y a un monsieur qui est passé avant, et M. Diaby qui dit que c'est la France qui envoie les djihadistes, c'est la France qui est cachée derrière. Au bout d'un moment, à quel moment l'État malien même va prendre ses responsabilités, au fait? Mali est un État de droit. À l'État malien de prendre ses responsabilités. Il ne peut pas avoir entre les groupes d'autodéfense et des djihadistes à faire un accord dans un pays. Le parti où ils font l'accord, ça fait partie du Mali ou pas?
Oui.
Alors, si ça fait partie du Mali, pourquoi on va enlever l'État malien dans l'accord? C'est avec l'État malien il faut discuter. Comment ils peuvent discuter entre eux et dire que l'armée part? Au bout d'un moment, ces frères maliens, vous voyez la chose en face, comme ils vous ont dit toujours. Ils vous disent ça toujours. Quand vous avez fait le coup d'État, quand ils vous ont dit c'est pour solution, vous voyez les choses en face. Au fait, c'est les Maliens même qui ont fait que le Mali va couler. À force d'accuser, au bout d'un moment, vous demandez vous-même, nous-mêmes, notre rôle, notre devoir, et qu'est-ce qui n'a pas marché dans nous-mêmes et dans nos comportements, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à avancer. Et posez-vous les vraies questions à vous-même. On est tout le temps en train d'accuser la France, un coup la France doit venir intervenir, un coup c'est la France qui est derrière, un coup c'est l'Union africaine, un coup. Mais ceux qui sont venus, qui ont chassé Ibeka, c'est les militaires, non? Ils ont dit c'est parce que Ibeka n'arrive pas
On se souvient que ces mêmes militaires, hein, avaient promis, hein, de reprendre, hein, la ville de Farabougou. Voilà, il y a même eu des annonces, hein, comme quoi une offensive a été lancée. Finalement, cette offensive a été défaite. Hein.
Effectivement, ça, ils voulaient revenir. Ils ont donné quoi? Ils ont donné que 2 mois. Ils ont donné 60 jours qu'ils vont libérer le Mali, non? Ils sont là, ça fait combien de temps?
Merci.
Mais au bout d'un moment, il faut arrêter. Bon, c'était mon coup de gueule, quoi, en fait. Merci.
Bonne journée à Aboubakari, qui soulignait, hein, c'est effectivement parfois, hein, les paradoxes. Je demande à Eric de patienter. On accueille Cheikh. Cheikh, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie, bonjour à tous.
Bonjour Cheikh, bienvenue. Vous dites, hein, l'État malien a failli.
Oui, a failli à son devoir. Régalien, Stéphanie. Je ne comprends pas. Je suis tellement énervé d'entendre une telle proposition. Ça ne se discute pas. C'est-à-dire, comment on peut demander à une armée nationale de se retirer d'un bout de territoire? C'est pour laisser libre cours aux djihadistes. Ils vont faire tout ce qu'ils veulent.
Est-ce qu'on peut dire, j'insiste un peu, Cheikh, mais est-ce qu'on peut dire...
Et autres, on n'a pas oublié, c'était le cas dans le temps au nord. Là, on ne parle pas du nord, là, on parle du centre. Massina. Mais c'est incroyable, Stéphanie. Mais c'est grave, c'est très grave. Une telle proposition, normalement, l'État malien, ils ne doivent même pas s'asseoir avec des gens qui font de telles propositions. Ce n'est pas possible. Mais à qui on ne peut pas en vouloir aux djihadistes?
Est-ce que si je peux mettre une sorte de chantage, Cheikh, je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que donc vous dites l'État malien ne peut pas attendez, regardez, je vais vous poser la question. L'État malien ne peut pas répondre à une telle proposition. Cependant, si je comprends bien, si l'État malien refuse de trouver de sortir les troupes de Farabougou, finalement les djihadistes reprendront leurs attaques sur les villages. Est-ce que il ne faut pas protéger la population?
Ça a tout le temps été le cas. Ils vont dire oui, on se retire, on vous donne un mois, ceci, cela. Mais ils ne vont jamais arrêter, Stéphanie. Le problème, c'est ça. Comment on peut faire confiance? Et en plus, c'est une katiba. Est-ce que cette katiba est représentative pour les Maliens? Non, pas du tout.
Bon, on rappelle que katiba Massina est membre, hein, d'ACMI,
d'un pays.
Du JNIM.
Une Katiba ne prend pas part à la gestion d'un pays. Maintenant, c'est des militaires qu'on a au pouvoir au Mali, et eux, ce sont des militaires, et jusqu'à présent, on ne voit pas le bout du tunnel. On ne voit rien. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Moi, je suis énervé. Je sais pas, je perds presque mes mots, mais c'est pas possible d'avoir une telle proposition pour un État de se retirer d'un bout de territoire pour laisser des terroristes gérer. Mais c'est pas possible. On va où, là ?
C'est très clair. On entend votre colère, Cheikh. Merci beaucoup de votre intervention. On termine peut-être ce sujet avec Eric. Eric, bonjour.
Oui, bonjour, madame Adman.
Bonjour, Eric. Bienvenue. Vous dites, hein, vous ne pouvez pas mettre cet accord non plus, c'est ça ?
Oui, madame. Franchement, je suis tombé de ma chaise en entendant ces propositions, en fait. Pour la simple raison qu'un État n'a de rendre de compte qu'à sa population. À partir du moment où un État est sommé, c'est le mot hein, qu'il faut utiliser, le mot n'est pas fort, est sommé de retirer ses troupes, ça veut dire que c'est un défi qui est lancé à l'État. Soit l'État est capable et il le fait, il gagne en crédibilité avec les populations, soit c'est un complot dont les militaires veulent faire tout pour rester au pouvoir parce que en laissant cette porte ouverte, ça devient une bulle d'air qui va rentrer de partout. Imaginez-vous, dans un État, vous avez pris des commandes. On vous dit que vous avez les mains libres de pouvoir récupérer le territoire. Vous avez dit, vous les militaires, que vous pouvez récupérer le territoire. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez en train de négocier. Et vous êtes plutôt...
Merci.
Vous êtes plutôt en train d'accepter ou peut-être de tendre l'oreille à des bandits.
Je vais résumer votre dernière déclaration parce qu'on arrive à la fin de l'émission, Eric, hein, vous dites finalement voilà, ça pourrait être une façon pour les militaires hein, de se maintenir au pouvoir, en tout cas c'est ce que vous avez suggéré. Merci beaucoup Eric hein, de votre intervention, merci à tous hein, d'ailleurs de votre participation, vous l'entendez, c'est la fin de cette émission, n'hésitez pas hein, à continuer le débat notamment sur notre page Facebook facebook.com/journal des auditeurs. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. À demain.